Et bienvenue au public, il est 10h45 et bienvenue sur Radio GDA. Nous sommes des élèves du lycée Jeanne d'Arc de Rouen et nous allons partager avec vous notre premier moment de radio. La thématique de notre émission aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire, l'ESS.
C'est pourquoi nous sommes ravis d'accueillir des invités exceptionnels aujourd'hui. Monsieur Delporte, Dominique, sociétaire de l'entreprise Railcop, et Marie, gérante du restaurant associatif La Cantine. Alors, nous laissons la parole à Fatima et Erwan, qui vont rapidement nous définir l'économie sociale et solidaire. On vous écoute.
L'économie solidaire peut être définie comme l'ensemble des activités de production, d'échange, d'épargne et consommation contribuent à la démocratisation de l'économie à partir d'engagements citoyens. Ainsi, contrairement à l'économie marchande, dont le but est la recherche de profits, et l'accumulation des capitaux. L'économie solidaire place l'homme au centre de ses préoccupations et actions. L'économie sociale regroupe principalement trois familles, mutuelles, coopératives, associations auxquelles ajoutent les marges, comptes d'entreprises et d'établissements, caisses d'épargne et de prévoyance, organisations culturelles, etc. L'économie solidaire est quant à elle une forme émergente de l'économie sociale axée vers les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre l'exclusion.
Je vais maintenant donner deux exemples d'économie sociale. Qu'est les Restos du Cœur, fondé par Coluche en 1985. Les Restos du Cœur est une association reconnue d'utilité publique. Ils ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Cette association a pour particularité d'avoir bénéficié du soutien de plusieurs personnalités françaises dès ses débuts et d'une vaste médiatisation, ce qui retient l'attention de la classe. Sa politique permet d'établir de nouvelles lois et attire la participation de nombreux bénévoles. Donc là, je vais passer au deuxième exemple. Biocoop est une société coopérative à forme anonyme, à capital variable, spécialisée dans la distribution commerciale de produits alimentaires labellisés agriculture biologique, bioconférence, d'émetteurs, etc. et de produits du commerce équitable, d'éco-produits et de cosmétiques.
Poursuivons en donnant la parole à Noah et Nel, qui vont interviewer Marie, gérante du restaurant La Cantine. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Marie. Avant tout, on aimerait savoir comment vas-tu?
Je vais très bien, merci.
Nous nous permettons de te tutoyer car tu nous l'avais autorisé lors de nos dernières rencontres.
C'est vrai.
Comment tu te définirais?
Comment je me définis? Une femme. On va commencer par ça. Une femme de plus de 50 ans, mère de deux enfants.
Et que fais-tu dans la vie?
Alors, je m'occupe de deux structures associatives en économie sociale et solidaire, effectivement. La première structure et la première que j'ai créée s'appelle Faites-le vous-même, FLVM pour l'acronyme, où on donne des cours de cuisine, de pâtisserie et de boulangerie pour tout le monde. Et puis la deuxième structure, c'est un restaurant associatif à Rouen qui s'appelle La Cantine, qui a pour objectif de nourrir les gens, notamment les étudiants d'ailleurs, les lycéens, avec des produits locaux pour moins cher qu'un kebab. Et c'est meilleur pour la santé.
Donc, tu as eu la gentillesse d'accepter notre invitation justement pour nous présenter La Cantine que tu as ouvert en 2014, c'est ça?
La Cantine, effectivement, les statuts ont été déposés à la préfecture en juillet 2014.
On aimerait savoir comment t'es venu ce projet de La Cantine?
En vous voyant sortir du lycée, tout simplement. Moi, j'habite juste à côté. Je vous voyais sortir, vous précipiter en bas pour aller manger, alors que votre cantine est très sympa, en plus ici, vous avez de très bons restaurateurs. Et oui, j'ai des échos. Et vous descendez systématiquement à l'heure des repas pour aller vous acheter des sandwichs, pour aller vous acheter des kebabs, pour aller vous acheter... À l'époque, il y avait une dame qui faisait des pâtes aussi, donc ça, c'était un peu votre kiff. Et vous alliez acheter, oui, mais t'étais pas encore au lycée à cette époque-là. Et donc vous alliez acheter des choses, au lieu de manger des légumes du lycée, vous alliez acheter n'importe quoi. Alors c'est très bien, mais tous les jours c'est pas très bien, parce que ça peut finir par rendre malade. Et il se trouve que moi qui fais partie des malades justement, je sais que l'alimentation fait partie des... Une mauvaise alimentation peut être responsable de tout un tas de troubles physiques. Alors, le plus évident, c'est le surpoids, bien sûr, mais il vient avec tout ce qui est diabète, tout ce qui est... toutes les différentes allergies que l'on peut développer, etc., etc. Donc, l'idée, pour moi, c'était de vous permettre d'aller dans des endroits, comme la cantine, où vous alliez pouvoir manger des légumes bio pour moins cher qu'un kebab. Mmh. Et donc, éviter que vous soyez malade, parce que vous n'êtes pas malade tout de suite, c'est après. C'est 10 ans plus tard.
Quel est le statut de ton entreprise de la cantine?
Je l'ai dit, c'est une association loi 1901. Bah, c'est un statut, oui, c'est un statut juridique. Bah, c'est un statut juridique, comme il en existe plein, sauf que ça rentre dans l'économie sociale et solidaire, puisque l'objectif, c'est effectivement de ne pas faire de profit, puisque dans les associations, tout ce que vous achetez est mis dans le tronc commun de l'association pour permettre à l'association de fonctionner. Ça ne va pas dans... on ne capitalise pas, si ce terme de capitalisation vous parle.
Et comment tu t'organises? Tu as des bénévoles, des salariés?
Oui, on est tous bénévoles. Moi-même, je suis bénévole.
Ouais. Tu n'as pas du tout de salariés, du
coup? Non, bah parce que je n'ai pas les moyens d'avoir des salariés.
Ouais.
Ça fonctionne le bénévolat. Bon, ça pourrait être le but. Il y a plein d'associations qui sont... la Sécurité sociale est une association avec d'énormes, beaucoup, beaucoup de salariés. Vous voyez, les associations, on a des très, très grandes. Les Restos du Cœur dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi une association avec des salariés. La Banque Alimentaire est également une association avec plein de salariés. Il y a beaucoup d'associations avec de grosses associations avec des salariés. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de salariés parce que, tout simplement, je n'ai pas suffisamment de revenus pour pouvoir créer du salariat.
On a une question peut-être un peu indiscrète.
Vas-y.
Par rapport à ta marge bénéficiaire, comment arrives-tu à en dégager une, si tu arrives à en dégager?
Bah, du coup, elle l'a dit, elle ne fait pas de profit. Tous les profits, ils servent pour l'entreprise, entre guillemets.
Oui, mais tu gardes rien pour toi?
Non.
Rien du tout? Même
rien
pas
du
un...
tout. Rien
bah,
du
par
tout.
Par exemple, pour payer les produits?
Eh ben, ils vont dans la poche du maraîcher qui me vend ses produits.
Ok.
Tu achètes un repas chez moi. L'argent qui va de ton repas, il va aller vers le producteur de légumes, si c'est un producteur de légumes, mais aussi de l'entreprise qui va me vendre des serviettes en papier pour que tu puisses t'essuyer la bouche après manger, des savons et autre chose, et des produits de vaisselle et compagnie, quoi. Donc tout est réinvesti dans l'entreprise. On a l'obligation de ne pas être en découvert. Puis de façon générale, il vaut mieux éviter d'être en découvert quant à une entreprise, quel que soit son statut. On dégage des profits, mais ces profits reviennent dans vos assiettes. Ça nous permet d'acheter du bio, par exemple.
Du coup, la cantine, c'est situé à rue Audrebec.
192 rue Audrebec.
C'est plutôt très bien situé, mais il y a plein de restaurants autour. Du coup, au niveau concurrence, c'est pas trop compliqué?
Non, parce que je les considère pas comme des concurrents, et eux non plus me considèrent pas comme une concurrente. Quand tu vas à la cantine, tu vas être adhérent à la cantine. C'est une association, donc tu adhères à la cantine, tu adhères au projet. D'ailleurs, ça te permet de pouvoir venir m'aider à éplucher des légumes, par exemple, si tu veux, ou à fabriquer les repas avec moi. Et quand tu vas à la cantine, tu t'es pas sur un mode concurrentiel, justement. Nous, on travaille pas sur la concurrence, on travaille sur l'entraide. C'est complètement autre chose. On n'est pas sur le capitalisme libéral, etc. Donc ce n'est pas du tout dans notre truc, ça. C'est pas notre... On fonctionne pas comme ça. On fonctionne vraiment avec de l'entraide et pas avec de la concurrence. Et ça ne nous apporte pas plus que ça, la concurrence. Pourquoi faire? Ils ont chacun leur... Chaque restaurant, si tu as remarqué, ils ont tous leurs spécificités. Tu vas voir un qui va faire des crêpes, l'autre qui va faire des pizzas, le troisième qui va faire beaucoup de choses à base de crème et de flan, etc. Donc nous, on est sur quelque chose beaucoup plus généraliste. Puis en plus, On fait beaucoup de choses végétariennes et végétaliennes. Et comme je t'ai parlé de la santé, je fais également beaucoup attention, très attention à ce que toutes les personnes qui ont développé, hélas, des allergies alimentaires ou des intolérances, comme l'intolérance au lactose, l'intolérance au gluten, l'intolérance aux fruits à coque, etc., puissent venir manger à la cantine sans tomber malade.
Par rapport à l'économie sociale et solidaire, on aimerait savoir comment la cantine est parfaitement en lien avec.
Par rapport à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de capitalisation, on n'est pas propriétaire des murs, on redistribue, on fait travailler ce qu'on appelle un circuit court, on travaille également sur le zéro déchet, qui est très important pour nous, c'est-à-dire que tout est recyclé chez nous. Les épluchures vont pour le compost. Les lycéens, quand vous venez manger, en général, on vous fait des parts très consistantes. Parce qu'on sait très bien que, alors vous, vous n'êtes pas forcément concernés, c'est plus les étudiants que vous, puisque vous êtes encore chez papa, maman. Donc en général, vos parents vous nourrissent, ils sont gentils. Et donc, mais quand vous êtes étudiant, là, vous êtes plus livré à vous-même. Et là, vous avez vos propres budgets, vous avez moins d'argent pour pouvoir vous nourrir correctement. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous, effectivement, on remplit largement vos assiettes de telle sorte que, ne pouvant pas tout terminer, vous repartiez avec une boîte pour pouvoir en manger le soir. Ce qui fait que, en fait, pour 5 euros, puisque pour un étudiant, pour un lycéen, c'est 5 euros le repas, vous aurez mangé pour le midi et pour le soir, donc ça vous fait un budget de 2,50 euros. Ce qui n'est pas du tout évident pour tout le monde, 2,50 euros. Ça a l'air rien pour les gens qui ont suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de compter. Mais pour la plupart des personnes qui ont des difficultés financières, 2,50 euros, c'est plus qu'un seul repas. Et ça, il faut y réfléchir à ça. Et donc, l'idée de réfléchir à aussi, et ça reste aussi sur l'économie sociale et solidaire, puisque dans l'économie sociale, il y a sociale et il y a solidaire. Donc, l'idée, c'est que, effectivement, la personne qui a un peu plus d'argent, elle va payer 7,50 euros le plat, parce que ce qu'elle va payer va permettre à quelqu'un qui a moins de pouvoir avoir la même chose que celle qui a plus. Et c'est le système de la sécurité sociale. C'est le même principe. Hein ? On met dans un tronc commun et on essaye de répartir en fonction des besoins de chacun. D'accord ? Ben c'est la même chose. Donc on est sur ce principe de la solidarité, sur le principe de l'échange, et on ne perd rien. On ne jette pas. Ça ne nous intéresse pas le fait de jeter.
Quelle serait ta définition de la solidarité pour toi ?
La solidarité, c'est permettre à celui qui a plus de donner à celui qui a moins. C'est d'être attentif à ce qui se passe autour de toi. C'est être dans l'aide aussi, beaucoup, sans forcément que ce soit une aide lourde, sans forcément le signifier. Pas la solidarité, elle est multiple, la solidarité. Hein. C'est une solidarité intergénérationnelle, une solidarité intersexe, une solidarité... Oui, entre les hommes, les femmes, les trans, entre les générations, avec l'âge aussi. Le plus jeune est dans le plus vieux, en général, c'est comme ça que ça se faisait quand j'étais jeune, moi.
On voulait te remercier pour... tu nous as accordé du temps et pour la gentillesse que tu as eu de nous accueillir la dernière fois. Tu as été super gentille. Tu es toujours souriante et tout, et tu es solaire. Tu es quelqu'un de solaire, du coup, c'est cool. Merci à vous.
Donc, nous invitons tous à venir manger à la cantine, située en centre-ville, rue de Robeck, pour tarif réduit, quoi.
Dès à présent, merci déjà, Marie. Adam, bonjour. Vous êtes passionné de photographie animalière depuis petit.
Oui.
Donc, comment vous est venu un peu cet amour de la photo ?
Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Alexandre, depuis petit, je suis passionné de photographie animalière. Donc, bien évidemment, depuis le temps, j'ai acquis beaucoup de matériel photographique sophistiqué et du coup, c'est une passion que je pratique encore aujourd'hui. Et donc, par rapport à cette passion, aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Rencontres, causes et vallées » de Jean-Jacques Surmont. Donc, c'est un livre qui a été publié en 2016, qui expose de magnifiques photographies de faune, de flore et de paysages, et qui permet de partager les rencontres qu'a fait le photographe au cours de ses balades. Donc, bien évidemment, derrière chaque image, il y a une histoire chargée d'émotions, l'endroit où elle a été prise, la façon dont elle a été prise et le temps que l'on a passé pour la prendre, etc. Bien évidemment, en ce qui concerne ce que dit Jean-Jacques Surmont, sur la quatrième de couverture, je partage exactement le même avis que lui, puisque ce sont des moments que j'ai déjà vécu lors de différents affûts. Le livre a également une préface qui permet d'introduire le livre, qui a été écrite par le célèbre président de la Ligue de la protection des oiseaux, Alain Bougain-Dubourg. Dans sa préface, Alain dit que Jean-Jacques n'a pas découvert la biodiversité, mais qu'il a grandi avec. Ce livre, outre ses photos, il développe ses compétences équestres au plus près des démunis. Il est également membre très actif de nombreuses structures associatives. Ce livre a le mérite délicieux de réveiller nos sens, mais il offre davantage la volonté évidente de voir préserver cette parcelle de planète admirable.
Merci beaucoup Adam. Nous allons clôturer donc cette émission avec une petite pause musicale avec Diane qui va nous interpréter plusieurs petits morceaux de piano. Diane, nous vous écoutons. Merci beaucoup Diane pour ces petits morceaux de piano qui étaient plutôt très bien réussis. Et nous vous remercions donc toutes et tous pour votre attention et pour nos invités, chroniqueurs, techniciens, musiciens. Un maximum d'applaudissements quand même. Et nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup. Petite transition musicale, la deuxième. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous. Il est actuellement 11h12 et nous nous retrouverons dans le JTA Show. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon équipe. Veuillez applaudir l'autre présentatrice du show, Margot.
Donc je vais vous présenter la société dont auquel nous allons parler. Donc Rycop est une société de transport ferroviaire française privée créée en 2019. Cette société rassemble les citoyens, les entreprises, les collectivités et plus largement toute personne physique ou morale partageant un objectif commun. Concevoir le respect des valeurs communes, des services ferroviaires adaptés aux besoins de tous les territoires. Actuellement, il y a environ 12 000 sociétaires ambitieux dans celle-ci.
Pour commencer, nous aurons la chance d'interviewer notre invité spécial, M. Dominique Delporte, avec Mathieu et Margot.
Donc, bonjour M. Delporte.
Bonjour.
Merci d'être venu aujourd'hui. Donc tout d'abord, comment pouvez-vous vous présenter ?
Alors, c'est très simple, je suis retraité. J'ai 70 ans, je suis devenu sociétaire Rycop il y a très peu de temps, 6 mois en gros. J'ai trouvé un intérêt dans Rycop, donc qui n'est pas forcément une entreprise, mais plutôt une coopérative, hein, au même titre que Biocop. D'ailleurs, si je me souviens bien, Biocop est sociétaire de Rycop aussi. Hein, il y a des enchevêtrements intéressants. L'intérêt de Rycop, c'est qu'on peut créer son propre groupe de discussion à l'intérieur. C'est-à-dire, si on est 5 sociétaires à avoir le même but, on crée ce cercle et on peut travailler dans la direction qu'on a prévue, à condition que cette initiative soit validée par le conseil d'administration de Rycop. Donc sinon, professionnellement, j'étais un artisan de l'Internet pendant les 15 dernières années de ma vie, à grimper sur des toits et installer de l'Internet par radio dans le département de la Manche.
Et donc maintenant que vous faites partie de cette coopération Rycop, c'est quoi votre rôle ?
Il y a 12 000 sociétaires, donc certains n'ont aucun autre rôle que d'être sociétaire, d'apporter leur obol. Donc je vous rappelle que vous pouvez tous devenir sociétaire. J'ai amené plein de docs là-dessus, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour entrer en tant que sociétaire, il faut juste dépenser 100 euros. C'est tout, c'est le minimum. Et à partir de là, vous pouvez participer à des groupes de discussion ou pas, ou rester complètement en retrait, ou même postuler pour devenir, pour faire partie du management de Rycop, c'est possible aussi.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette coopérative ?
Plusieurs choses. Tout d'abord, je fais partie d'une autre association qui s'appelle A Cause France, une association qui fait la promotion du véhicule électrique. A Cause, ça se décompose, c'est un acronyme qui se décompose en association des conducteurs de véhicules zéro émission. Il y a plusieurs associations en France qui s'intéressent à ça, mais moi je fais partie d'une de celles-là. Je suis partisan, je défends l'idée plus exactement que nous avons fait des erreurs en termes d'automobile dans les années précédentes, c'est-à-dire que nous avons tous opté pour acheter ce qu'on appelle un véhicule crête, besoin crête, autrement dit le véhicule qui permet de mettre toute la famille, les bagages, de tirer la caravane et de partir en vacances. Et c'est ce véhicule que finalement, on va utiliser tous les jours seul. C'est-à-dire, on fait, l'erreur, c'est d'acheter un véhicule qui est à la fois lourd, consomme de l'énergie, ne rentre pas forcément bien dans l'atmosphère au niveau de sa résistance à l'avancement. Bref, tout un tas d'inconvénients. Mais ça fait rien, on achète quand même celui-là parce qu'on va en avoir besoin une fois dans l'année ou deux fois. Donc ça, c'est un mauvais paradigme. Parce que ça nous a conduit à construire énormément d'autoroutes pour que ces véhicules puissent se déplacer à travers toute la France. Donc évidemment, on a oublié le train pendant ce temps-là. Et donc le paradigme à découvrir, c'est au contraire acheter de tout petits véhicules qui sont parfaitement adaptés à nos besoins quotidiens. Alors, je prends l'exemple, la voiturette électrique, la Citroën Ami, voilà. Ça c'est quelque chose, si on fait 60 km dans la journée, c'est la voiture idéale. Mais on ne pourra pas partir en vacances avec. Okay ?
Non, je ne pense pas.
Voilà. Une fois qu'on a bien compris ça, comment est-ce qu'on résout le problème du besoin crête ? Il y a plusieurs façons de procéder. La première, c'est d'avoir une deuxième voiture. Voilà. Donc un vieux diesel qui va bientôt plus servir à rien puisque Palpatine aura finalement invalidé notre moyen de rouler en faisant flamber le prix de l'essence. On peut prendre le train. Mais si on veut aller au-delà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on loue une voiture à l'arrivée ? Si on a besoin, hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin. On peut faire des vacances sympas à pied, en vélo, à dos d'âne, etc.
Mais le plus important, c'est de protéger l'environnement en essayant de réduire nos consommations, c'est ça ?
Mais c'est aussi, ce qui est crucial aujourd'hui, c'est de cesser de consommer de l'énergie fossile. Okay, ça, c'est rédhibitoire. On ne pourra plus rouler comme on a roulé. On ne pourra plus vaporiser les quantités faramineuses de CO2 dans l'espace. Voilà, tout ça s'enchaîne, bien sûr. Hein. Je me place au travers de la question que vous m'avez posée sur RICOP. Quelle est ma volonté? Pourquoi je suis rentré dans RICOP? Donc, il y a une autre façon de procéder qui est de dire, cette petite voiture qui me sert tous les jours, je vais pouvoir, à tout moment, la mettre sur un train, voyager avec, dans le même train. Pendant ce temps-là, le train va me charger ma voiture et quand je vais arriver à destination, je sors ma voiture et mon autonomie est restituée intégralement. Donc voilà les valeurs que je défends au sein de RICOP. Autrement dit, mon cercle de discussion, bon, il est tout nouveau, hein, on est 6 ou 7, je crois, ça va peut-être prendre de l'ampleur. Son titre, c'est « Renouveau du train auto en tant qu'extenseur d'autonomie du véhicule électrique ». Voilà. Donc c'est ça qui m'a motivé. C'est RICOP, ça me plaît bien, j'ai toujours aimé le train. Mon papa dirigeait une entreprise qui fabriquait du matériel ferroviaire, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Mais moi aussi, j'ai acheté la voiture qui me permettait d'aller très vite dans le sud de la France ou en Allemagne, etc. Donc cette période-là est révolue, il faut donc changer complètement notre mode de vie. Donc la première, alors avec ses détracteurs, hein, c'est le véhicule électrique qui localement ne pollue plus, hein, même si on peut discuter pendant des heures là-dessus. Mais quand on roule avec, on ne pollue plus. Et on pollue peut-être ailleurs, il faut fabriquer le courant, il faut fabriquer la voiture... il faut fabriquer l'énergie, finalement, qu'on mettra dans la voiture. Mais globalement, elle ne pollue plus, à l'inverse de tous les autres véhicules qui polluent dès qu'on les utilise.
D'accord. Donc, voilà. Je suis désolé, je vais être obligé de vous couper. On va passer à une autre question, mais c'était une réponse très intéressante et très développée.
Je suis assez long.
Il n'y a pas de souci.
Donc, du coup, quel est le moyen mis en œuvre pour atteindre vos objectifs?
Les moyens... Donc, RICOP fait partie du moyen. En ce moment, par exemple, dans mon village... je suis en train d'implanter un système d'autopartage à partir de Citroën Ami. Donc, notre village est composé de 3 petits villages, un gros, 2 petits, 1500, 400 et 500 habitants. Les 2 villages satellites étant distants de 4 à 5 km. Mais tout le collège est dans le village central, la supérette est dans le village central, les 3 boulangers aussi, enfin bref, tout est là. Et beaucoup de gens ont du mal à faire leurs courses. Parce qu'ils n'ont pas de véhicule, parce qu'ils n'ont pas le permis, pour tout un tas de raisons, ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule ou bien ils n'ont pas l'âge. Et donc la Citroën Ami, elle permet dès 14 ans, de pouvoir conduire un véhicule qui est en toute sécurité, qui est d'une voiturette électrique. Donc ça, c'est un des vecteurs. Et ensuite, évidemment, ce sera le fer de lance pour lancer le projet RICOP. Si jamais mon cercle de discussion aboutit à quelque chose, parce que on ne me met pas de pression, hein, je peux ne pas aboutir éventuellement, le cercle peut disparaître, à supposer qu'on se mette à trouver de l'énergie fossile à vil prix sous nos pieds, ou dans notre sous-sol, par fracturation rocheuse, pourquoi pas. RICOP, c'est le vecteur suivant, c'est comment je fais pour répondre à des besoins créés.
D'accord.
Voilà. Besoin quotidien, petite voiture, besoin crête, le train.
On a vu donc les voitures électriques avec RICOP, etc. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour ne plus utiliser les énergies fossiles au sein de RICOP?
Je ne sais pas. En réalité, je ne connais pas, je ne suis pas assez ancien dans RICOP pour savoir exactement ce que font les autres groupes de discussion. Mais je vais quand même vous apporter un élément de réponse par la carte qu'on aurait pu projeter si vous aviez des moyens de projeter. Mais la radio, ça reste la radio. C'est la carte des lignes de chemin de fer qui vont être ouvertes par RICOP dans les années qui vont venir. Alors, la première ligne, c'est Bordeaux-Lyon, une ligne qui avait été abandonnée par la SNCF depuis 11 ans. Hein, je rappelle qu'aujourd'hui, les gens qui veulent... partir de Bordeaux et aller à Lyon, ils prennent le TGV pour aller à Paris, ensuite un TGV pour descendre à Lyon. Et entre les deux, c'est le car. Voilà. Donc, il se trouve que les lignes 3 et 4 qui vont être rétablies, la 2, je ne me souviens plus, mais 3 et 4, ça a une importance énorme. La 3, par exemple, c'est une ligne qui va partir de Calais, qui va aller jusqu'à Nantes, et qui va donc desservir Rouen, Caen, Saint-Lô, Rennes, Donc on a tout d'un coup une ligne directe pour avoir des échanges commerciaux, des échanges culturels ou touristiques avec des régions qui ne se connaissent pas.
D'accord.
Hein, dire pour aller même en voiture, pour aller de Normandie dans le nord de la France, c'est déjà une aventure, surtout en véhicule électrique. Mais la plupart du temps, on passe par Paris.
D'accord.
Donc okay. Voilà, c'est un point positif. Voilà.
D'accord, je vois.
Pour le climat.
Merci d'être venu, c'était très très intéressant.
Alors, merci à Monsieur Dominique Delporte pour cette interview. Maintenant, au niveau de la revue de presse, nous aurons Rachel, Laetitia et Afrine.
Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la ligne Paris-Rouen-Le Havre et inversement. En effet, il y a eu des trains en moins sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris. 18 trains auraient dû être mis en place à partir du 1er janvier 2020. Or, à cause du Covid, la ligne n'a pas du tout été stable et durable. Ils ont été mis puis retirés. Donc la décision a été de retarder leur déploiement à cause de l'offre et la demande qui n'étaient pas assez présents. Les wagons n'étaient pas du tout remplis et donc pas assez de voyageurs sur les trains, ce qui est une perte de bénéfices. Ces trains enlevés ont énormément causé de colère par rapport aux passagers, notamment ma tante qui est une qui prend régulièrement le train afin d'aller voir ma grand-mère au Havre. Et donc ça a été un agacement de sa part. Voilà.
Les trains de nuit sont aussi de bonnes alternatives pour les trajets longue distance mis en place par l'ancien ministre des Transports, qui est très connu sur TikTok, Jean-Baptiste Djebrari.
En plus de ces trains routiers, d'ailleurs, il y a les tempêtes qui provoquent des retardements sur les lignes dus aux arbres et aux branches qui obstruent donc les voies. Et il faut dire que la SNCF n'est pas très rapide pour enlever tout ça.
Il y a également énormément de trains qui sont retardés à cause d'accidents d'humains et d'animaux. Sur un article de Sud Normandie, publié le 10 janvier, un train a percuté un sanglier près de Bolbec, en Seine-Maritime. Le lundi 10 janvier 2022, vers 18h30, l'incident a provoqué plus d'une heure de retard sur la ligne Rouen-Le Havre.
Sur un article de Actuos, publié le 29 avril 2022, un train a percuté une femme dans la gare de Lens le vendredi 29 avril à 17h. 90 voyageurs ont dû être évacués et ont dû prendre le bus pour atteindre leur destination. Le train a repris la circulation à 20h15, soit 3h15 de retard.
Très 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 intéressant. Alors maintenant, nous allons passer à Alex et Antoine qui nous parleront de la moto GPZ500, mais tout d'abord, nous allons avoir un petit jingle. Alex-Antoine, qu'avez-vous à nous dire sur la moto du coup ?
Donc bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la Kawasaki GPZ500. Alors c'est une moto qui a vu le jour en 1987 et qui a vite séduit un public jeune par ses performances sportives mais aussi par son prix attractif. Donc c'est un croisement d'une roadster et d'une sportive. La GPZ figure parmi les plus puissantes des motos de moyenne cylindrée. Elle est toutefois adaptée aux débutants. Mais Alex, comment est composée la moto ?
Alors, elle est dotée d'un moteur bicylindre en ligne, refroidi par eau et monté sur une boîte de rapport 6 vitesses. Tout cela développe 498 cm3 et 60,2 chevaux. Et ça la propulse à une vitesse max de 198 km/h. En 1994, la GPZ a subi quelques modifications au niveau du look, mais surtout au niveau technique. Par exemple, les freins arrière qui étaient à tambour sont remplacés par des freins à disque et les roues sont passées en 17 pouces, ce qui la rend plus agile. Elle est aussi équipée d'un frein avant double disque et de deux sorties d'échappement, qui est très rare sur des motos de cette cylindrée. Puis la GPZ, elle a changé que ses coloris jusqu'en 2009, où la production de cette moto est arrêtée. De nos jours, cette moto peut être intéressante pour les permis A2, qui sont les jeunes permis à moto, car elle peut être adaptée avec une bride de 34 chevaux, aussi car elle est économique et très peu chère. Avec mon expérience, je peux vous dire que la GPZ500 est une moto qui peut avoir beaucoup de sensations pour un jeune permis, mais et aussi cette moto, on a du mal à trouver des défauts.
Et si, cette moto a quelques points faibles, qui sont que le moteur n'est pas assez souple à bas régime, et la tête de fourche qui a tendance à vibrer à haut régime, et le freinage qui est un peu juste. Mais cette Kawasaki n'en reste pas moins une moto discrète mais efficace, endurante et performante, une moto issue du passé pour certains, mais des sensations d'actualité pour tous.
Merci de nous avoir écoutés. Alors, avant de passer à la suite, nous allons nous faire une petite écoute du groupe de musiciens Le Quinquet Goodman, qui sera composé de Louisa à la clarinette, Corentin au violon, Jean pour le cor, Adèle à la percussion et Nawel pour la flûte. Pour finir ce show, il y aura Tochuku qui nous parlera de la création du basket.
Bonjour, je vais vous présenter l'histoire du basket, un des sports les plus pratiqués au monde et pour moi le meilleur. Revenons en arrière pour comprendre la création de ce sport. 1891, aux États-Unis, dans un collège de Springfield, une région où il fait extrêmement froid l'hiver, du coup les élèves sont coincés et ne peuvent pas jouer au foot. C'est alors qu'on confie à James Naismith, prof d'EPS, de créer un sport divertissant, facile à apprendre pour les élèves, là où d'autres ont échoué avant lui. Mais lui, il décide de placer deux paniers à 3,47 m de haut et deux équipes de 9 joueurs. Pour sa première partie, les règles étaient simples. Pas le droit de courir le ballon en main, pour déplacer le ballon, faire des passes, et pour les points, viser le panier. Ce fut un succès monumental. Qui dit succès, dit nouvelles règles. Le dribble est alors ajouté, cela te permet d'avancer le ballon en main. Pas plus de 5 joueurs sur le terrain, les points se comptant de 2 en 2, les paniers modernisés, filets, panneaux sont ajoutés, évitant toute triche, et une ligne à 3 points est aussi ajoutée pour les tirs éloignés. Etc, etc. Et voilà comment le basket est devenu l'un des sports les plus pratiqués au monde. Merci.
Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce show, les personnes qu'on n'a pas vues, les invités, Dominique Delporte et Marie, aussi Michel qui nous a aidés à le bâtir, et le régisseur aussi. Et à la prochaine pour une nouvelle écoute.